l'estrade pour apporter la parole de Dieu. C'est une responsabilité, mais que Dieu nous aide en tant que serviteurs. Merci. Donc, merci aux musiciens de ce matin. Donc, le thème que je voudrais apporter, c'est la louange. Et on a chanté « Tu habites nos louanges ». Et la prière aussi, j'ai entendu une prière ce matin d'un frère. Merci pour tes louanges qui nous donnent de triompher. Il y a vraiment, cette personne ce matin dans sa prière a vraiment dit des paroles que nous allons pouvoir voir ce matin à travers ce message. Alors je vais vous parler de la louange. Avant tout, ce que je voudrais vous dire, c'est que je suis souvent impressionné par une phrase qui est souvent répétée dans le Nouveau Testament. C'est une phrase de Jésus. Et souvent, il dit « Jésus connaissait leurs pensées ». Vous le voyez souvent dans les évangiles, il y a une scène, par exemple une délivrance de quelqu'un ou alors une guérison. Jésus s'avance et il connaissait les pensées des gens qui étaient présents. Il avait ses facultés de ressentir l'environnement autour de lui. Et souvent, ces personnes qui étaient dans ces moments-là pensaient certaines choses et ils avaient le droit, quelque part, de penser telle ou telle chose. Et même ces personnes avaient des arguments à donner à Jésus en disant « Écoute, tu fais ça, mais c'est le jour du sabbat, tu ne peux pas faire telle ou telle chose. » Et donc, Jésus, lui, avait cette faculté à connaître les pensées des gens qui étaient là. Ça m'a toujours impressionné. Parce que c'est vrai que d'ici, ce que je vois, c'est des visages, des yeux, des mains, des nez, des oreilles. Mais nous savons tous qu'il y a aussi un environnement. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a un environnement, il y a quelque chose qui nous environne. Cette réflexion pour vous dire la chose suivante, c'est que Dieu a créé l'homme pour vivre dans un environnement. Dès le départ, Dieu a créé l'homme et la femme dans un environnement. Vous connaissez lequel? Dans quel environnement Dieu a créé l'homme et la femme? Dans le jardin. Donc, Dieu a créé l'homme et la femme dans un environnement. Et peut-être que ce matin, certaines personnes ici présentes, vous pouvez peut-être être dans un environnement qui n'est pas forcément le bon. C'est un environnement dans lequel vous ne supposez pas être. Vous êtes peut-être dans un environnement de découragement, de problème, de mélancolie, un environnement de tristesse, de lourdeur, de rancune, etc. Donc on peut être dans un certain environnement. Moi, je vois ce matin uniquement des têtes, des oreilles, ce que je vous disais tout à l'heure, mais je sais qu'il y a des environnements. On est dans un environnement. Et on peut s'habituer. Le pire pour l'être humain, c'est qu'on peut s'habituer à ces environnements. Vous pouvez vivre un environnement de tristesse et au bout d'un moment, on peut s'y habituer. Vivre toujours dans le même environnement. Mais ce que je crois au fond de mon cœur, et je sais aussi que ça vous le croyez, c'est que Jésus est venu pour nous retirer d'un certain environnement. Est-ce que vous le croyez ça? Amen. Jésus a dit « Je vous ferai pécheur d'homme ». Je vous ferai pécheur d'homme. L'environnement du poisson, c'est quoi? C'est l'eau. Et c'est sûr que c'est un peu bizarre de retirer le poisson de l'eau, parce qu'on sait qu'il va mourir. Mais par contre, je vous ferai pécheur d'homme. Il faut savoir que l'eau, à cette époque-là, au temps de Jésus, représentait tout ce qui était ténèbres. Je vous ferai pécheur d'homme, c'est-à-dire que Jésus est venu pour nous retirer d'un environnement qui n'est pas bon. Jésus est venu pour nous retirer dans un environnement qui n'est pas bon. Je vous ferai pécheur d'homme. Ce matin, je voudrais qu'on prenne conscience de cela. Et je sais qu'on a tous à cœur de vivre dans l'environnement de Dieu. On n'est pas des gens qui ne veulent pas se rapprocher de Dieu, mais on a besoin que Dieu nous retire de certains environnements. Et il y a une chose qui nous permet de rentrer dans l'environnement de Dieu, c'est la louange. La louange, c'est l'environnement de Dieu. Il est marqué dans le psaume 22, « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple ». Et avez-vous remarqué la chose toute simple? Quand vous venez au début de la réunion, l'environnement est différent, Et plus que la réunion avance, plus que la louange est proclamée, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a quelque chose qui se passe. On vient tous ici, dans la maison de Dieu, avec nos environnements. Et il y a des fois, dans certaines églises, il y a une atmosphère qui est lourde. Il y a une atmosphère qui est lourde. Et des fois, les réunions commencent et on sent qu'il y a une atmosphère pesante parce que chacun vient avec son environnement. Et je sais qu'au début de mon service pour Dieu, eh bien, c'est quelque chose qui m'affectait. Je ressentais, il y avait des choses qui m'affectaient. Mais maintenant, la position à prendre, c'est que je sais que même s'il y a des choses qui sont lourdes, la louange est là et Dieu siège au milieu de sa louange. Et nous savons qu'il y a quelque chose qui se passe quand la louange est proclamée. C'est pas, je ne vous donne pas des trucs, des astuces, ce n'est pas de la magie, quoi que ce soit. Au-delà de tout ça, c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu, la louange. Et on va le voir à travers les choses que je vais vous présenter. Alors, la louange, comme je vous le dis, c'est l'environnement de Dieu. Il y a un homme dans l'Ancien Testament qui s'appelle Asaph. Asaph, c'est un homme de Dieu, c'est un conducteur de louange. Et cet homme-là, dans l'Ancien Testament, c'était un homme très influent. La preuve, c'est que 550 ans après sa mort, les musiciens continuaient à les appeler les fils d'Asaph. Donc c'était un homme de Dieu, c'était un prophète. Cet homme était influent à son époque. Il a composé 12 psaumes sur les 150. Mais pourtant, à un moment, cet homme de Dieu, ce conducteur de louanges, va vivre un environnement, excusez-moi du terme, mais pourri. Un environnement de découragement. Et on le voit dans le psaume 73, ce découragement. On va le prendre par la suite. Les commentateurs, par rapport à ce psaume, s'entendent pour dire que Asaph, en fin de compte, a vécu certaines choses dans sa vie. C'était le musicien de David et de Salomon. Et on pense qu'il a dû voir Salomon dériver au niveau de spirituel. Et ça a dû peut-être décourager Asaph. Il a dû avoir le cœur brisé de voir son leader spirituel prendre une mauvaise direction. Et il y a d'autres facteurs. Il a vu aussi son frère tué dans le temple. Il a vu aussi des Lévites se faire tuer durant l'invasion de Jérusalem. Et puis Asaph, c'est aussi quelqu'un qui a été témoin de la division au niveau d'Israël. En fin de compte, Asaph a vu certaines choses. Et des fois, on peut être déçu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut être déçu des fois? On peut être déçu de certaines choses, on peut se sentir blessé, et on peut avoir une certaine souffrance. Alors, on va prendre le psaume 73. On va lire les premiers versets. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu de rien que mes pas ne glissent, car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est replet. En fin de compte, Asaph est découragé parce qu'il voit qu'autour de lui, il y a des méchants, il y a des personnes qui progressent dans la vie, qui sont même en paix. Et ça, c'est quelque chose qui est venu le décourager. Au versets 12 et 13. « Ainsi sont les méchants, toujours tranquilles. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » Asaph est découragé et il va dire que même ce qu'il a pu faire pour Dieu, c'est en vain. C'est en vain. Il doit se dire que ça fait des années qu'il suit le Seigneur, qu'il est au service de Dieu. Il a fait des choses pour Dieu, il a écrit des chants, il a fait telle ou telle chose et à un moment, il se dit tout ça, c'est en vain. En vain, en hébreu, ça veut dire vide et sans but. Donc son environnement, là on voit que Asaph, son environnement, c'est un environnement de découragement. Il est dans la remise en question. Il envie tout le monde, sauf sa propre vie. Il est comme dans un trou noir. Mais à un moment, dans ce psaume, Asaph va faire le choix de rentrer dans la présence de Dieu. Alors, on peut lire au verset 16. J'ai donc réfléchi pour comprendre tout cela. C'est-à-dire qu'il a, cogité. Il ne comprenait pas. Moi, je suis avec toi, Seigneur, et puis tu vois les méchants, comment ils prospèrent. Et moi, rien ne me réussit. Et au verset 16, il dit, j'ai réfléchi sur tout ça. Ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors, j'ai compris le sort final des méchants. Au verset 23, donc là, il est parlé de la présence divine. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Et finalement, au verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Amen. Amen. L'environnement de Dieu. Donc tout d'un coup, entre le début du psaume et la fin, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui change. Et qu'est-ce qui change? C'est qu'Asaph a décidé de rentrer dans la présence de Dieu. Hein, je ne sais pas si vous avez besoin de ça, mais moi, je sais que ça me parle. J'ai besoin de rentrer dans la présence de Dieu. Et quand il rentre dans la présence de Dieu, sa perception a changé. Donc la louange, c'est choisir l'environnement de Dieu. Et je vous encourage, à la maison, dans votre voiture, hein, c'est tout simple, mais à écouter des louanges du Seigneur. Hein. Moi, je sais que j'ai du trajet le matin, j'ai facilement une demi-heure pour aller au travail, mais dans ma Xantia tout confort, je mets une cassette et je... Est-ce que c'est des cassettes encore? Et il y a la louange de Dieu. Et là, on est dans la présence de Dieu. J'ai entendu un témoignage d'une femme qui était en... Dans son véhicule, son enfant était derrière, elle écoutait du louange, et à un moment, la petite, elle se met à pleurer. Puis elle s'arrête, puis elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? La petite fille a dit, je veux donner mon cœur à Jésus. Amen. Hein? Ça, c'est l'environnement de la présence de Dieu. Alors, je vous encourage. Il y a une bibliothèque, là, vous pouvez acheter des CD, mais écoutez des chants de Dieu, écoutez des louanges, c'est une bonne chose. C'est quelque chose qui nous met dans la présence de Dieu. J'ai une petite réflexion à vous donner par rapport à l'environnement et la présence de Dieu. Pour moi, et c'est quelque chose que je voudrais vous apporter, c'est qu'il faut chérir davantage la présence de Dieu que ses promesses. Est-ce que vous savez que vous pouvez arriver aux promesses de Dieu sans sa présence? On peut arriver aux promesses que Dieu a données aux uns et aux autres sans sa présence. Dans Exode 33, on ne va pas le prendre, il y a l'épisode du veau d'or. L'épisode du veau d'or. Le peuple sort d'Égypte et ils arrivent au mont Sinaï où Moïse demande les commandements, où Moïse récupère les commandements auprès de Dieu. Et ce peuple est là, impatient, et en fin de compte, ils se font un veau d'or. Et l'Éternel, en voyant cela, dit à Moïse, écoute, j'ai fait une promesse à Abraham, c'est de vous emmener dans le pays de Canaan. Donc, vous allez y aller, dans ce pays de Canaan. Je vais vous donner un ange pour vous y conduire. Mais par contre, moi, je ne serai pas avec vous. Ma présence ne sera pas là. Quelque part, nous pouvons arriver aux promesses de Dieu sans sa présence. Mais Moïse, c'est... chérit davantage la présence de Dieu que les promesses. Moïse a dit, écoute, ça ne sert à rien qu'on aille dans ce pays de la promesse si toi, tu n'es pas avec nous. Je vous exhorte à rechercher davantage sa présence que les promesses qu'il nous a données. On peut arriver aux promesses que Dieu nous a données sans sa présence. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? C'est chérir la présence de Dieu. Je veux chérir ta présence. Ça ne sert à rien qu'on arrive à tel ou tel endroit si toi, Seigneur, tu n'es pas avec nous. Donc la louange, c'est ça. On veut la présence de Dieu. On veut l'environnement de Dieu. On veut chérir sa présence. Et non pas arriver à des finalités qui ne nous servent à rien. Notre cœur est pour Dieu. On ne veut pas autre chose. Et l'environnement, encore un petit détail, ce n'est pas une ambiance. L'environnement, ce n'est pas une ambiance. On peut créer des ambiances. Mais ce qu'on veut rechercher, c'est l'environnement de Dieu. Quand on voit l'histoire du veau d'or, il y avait de l'ambiance. Et ce n'était pas une série noire, quelque chose d'une cérémonie. Non, au contraire, il y avait, c'est marqué, il y avait de la joie, il y avait de la communion. Les gens apportaient même des choses, ils donnaient de l'or pour pouvoir faire cette statue. Il y avait une communion, il y avait, on dirait une fraternité. Et en plus, en créant ce veau d'or, ils voulaient donner une représentation de l'éternel. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas encore vraiment pleinement de tout leur cœur. Et quelque part, on pourrait dire qu'ils avaient, ils étaient attentionnés, il y avait quelque chose, mais c'est une ambiance sans la présence de Dieu. Et ce qu'on veut, nous, ce n'est pas des ambiances, mais on veut la présence de Dieu. Donc ça, je voulais vous donner quelques réflexions par rapport à cela, mais la louange, c'est la présence de Dieu. Le deuxième point que je voudrais apporter avec vous, c'est que la louange, c'est aussi un moyen d'avancer. Quand on se sent stoppé à certains moments dans notre vie, la louange, c'est un moyen d'avancer. Alors, on va faire une lecture dans Actes 16, au verset 23. Donc, c'est des passages très connus. Actes 16, au verset 23. Donc là, il nous est parlé de Paul et Silas. Donc, après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci, qui avait reçu cette recommandation, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutèrent. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Amen. Donc la louange est un moyen d'avancer. Là, Paul et Silas ne peuvent plus du tout avancer. Ils sont vraiment dans un cas de figure où c'est marqué des ceps, donc c'était des pièces de bois, c'est comme des chaînes, aux pieds, ils sont au fond d'une prison. Et ce qui est paradoxal, c'est que Paul et Silas sont en prison, pourquoi? Parce qu'ils ont respecté l'appel de Dieu. Ils ont été en Macédoine, ils ont commencé à arriver en Macédoine, ils ont délivré un possédé. Alors on pourrait se dire, super, un réveil. Non, pas du tout. Allez, venez par là, on va vous mettre en prison. Donc, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, mais tu peux obéir à l'appel de Dieu. Tu peux obéir à l'appel de Dieu, puis à un moment, te retrouver comme dans une impasse. Une impasse à nos yeux, mais pas une impasse pour Dieu. Et la louange, c'est décider d'avancer, malgré tout. Alors qu'on est au fond d'une prison, il ne se passe rien du tout, mais tu peux encore avancer. Paul a choisi de chanter les louanges de Dieu. Il est au fond d'une prison, il a le dos en sang, il ne sait pas si demain il va encore vivre, il ne sait pas ce que demain va lui réserver. Je ne sais pas si moi, à sa place, j'aurais eu le goût de chanter, mais la Bible nous dit qu'il chantait et louait Dieu. Amen. Il dit que les prisonniers les entendaient. Ce n'est pas une petite chantonnette. Non, il louait et chantait Dieu. Il louait, chantait fort, avec dynamisme, et les prisonniers les entendaient. C'est des hommes, c'est des êtres humains comme nous. C'est vrai que quand on est pris dans notre corps, quand on est mal dans le corps, on n'a pas forcément le goût de chanter, de célébrer, louer Dieu, mais il nous est dit que la louange était là et qu'il y a eu une issue. Amen. Et les murs ont tremblé. Un autre frère le disait ce matin dans sa prière, le tremblement. Les murs ont tremblé et les prisonniers ont été libérés. Et le geôlier, alors, c'est vraiment la main de Dieu, c'est le geôlier qui a frappé ces personnes-là, eh bien après s'est converti et Paul l'a baptisé l'après-midi. Donc c'est pas très conventionnel. Le matin, il se fait frapper par cet homme-là et ensuite, il baptise le geôlier. Ils sont passés de la prison, en fin de compte, à une implantation d'église. Il y a une famille qui s'est convertie. Et quel est l'élément qui était présent? C'était la louange. La louange était là. Peuple de Dieu, si tu te sens arrêté, loue le Seigneur. Non pas, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que c'est magique, non. C'est parce qu'on aspire à quelque chose. On sait que l'Éternel est là et on veut louer le Seigneur. La louange, c'est décider d'avancer malgré les circonstances. Et mon dernier point que je voudrais voir avec vous, donc, la louange, c'est l'environnement de Dieu. Et la louange, c'est un moyen aussi de dire « je veux avancer malgré les circonstances ». Et dans la louange, il y a aussi une notion de victoire. De victoire. Nous avons, et ça j'en suis sûr, tous, quelque part, des problèmes. Hein, petits ou grands, mais on a tous des problèmes ou des soucis. Et souvent, notre réaction, c'est de combattre ce que l'on voit. Hein, quand on a des soucis, on veut combattre ce que l'on voit. Et ça, c'est notre problème. On veut combattre un tel et un tel, et ça, c'est une erreur. Parce que souvent, la source du problème, et je m'adresse à des hommes et des femmes de Dieu, souvent, la source du problème se passe dans un monde invisible. Hein? Vous connaissez cette phrase d'Éphésiens 6:12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Amen. Vous croyez cela ? Donc, on n'a pas à lutter. Et ça, c'est le réflexe premier. Quand on est en face à un ennemi, bon, quelque chose qui est là contre la volonté de Dieu, notre réflexe, c'est de vouloir se battre avec lui. Mais la parole nous dit qu'il ne faut pas voir les choses ainsi. Donc, le problème, c'est qu'on veut combattre ce que l'on voit, alors que le souci, souvent, c'est dans l'invisible. David avait bien compris ce principe. Hein. Il est dit qu'il remercie le Seigneur parce qu'il l'a délivré de ses ennemis. Il le remercie pour cela. Et David, c'était quelqu'un qui était poursuivi par Saül. Et donc, il connaissait cet ennemi qui l'entourait. Mais il accordait de l'importance à louer le Seigneur pour le délivrer de ses ennemis. Donc, la louange est là pour, quelque part, aussi, et ça je crois aussi fortement, la louange est là pour régler certaines choses qui sont dans l'invisible. D'une façon humaine, donc deux minutes, d'une façon humaine, le fait de dire « Alléluia, Dieu est fort », cela peut paraître ridicule aux yeux humains. Hein? Le fait de dire que Dieu est fort, tout ça, cela peut paraître ridicule aux yeux humains. Mais par contre, nous, on sait que quand on proclame ces paroles, il se passe quelque chose dans le monde invisible. Hein? Vous savez, il n'y a pas de musique chrétienne. La musique chrétienne, ça n'existe pas. C'est les paroles. Les paroles qui sont attribuées à ces musiques qu'on dit qui sont chrétiennes. Et c'est pour ça aussi, et heureusement que Dieu ne nous a pas donné des notes bien précises, parce que cette musique, ces chants chrétiens traversent les siècles. Donc on n'est pas figé à une mélodie bien particulière. Il n'y a pas de musique chrétienne, ce sont des paroles. Vous savez, dans le monde, hein, les gens chantent aussi l'amour. Moi, il y a des chants qui m'interpellaient. Quand on voit des chants de Jacques Brel sur l'amour, sur ceci, cela. Mais ce n'est pas cela, on ne veut pas chanter de belles choses, parce qu'on veut proclamer la parole de Dieu à travers les chants. Donc, cela peut paraître ridicule à l'extérieur qu'on dise cela, mais nous, on sait que ça déclenche quelque chose dans la visible. Amen. Hein, ça déclenche quelque chose dans la visible. Et chaque semaine, quand on se réunit, le peuple arrive, on arrive ici avec nos luttes, nos combats, nos pensées ténébreuses. Et les musiciens, le matin, ils sont ici, ils commencent à se préparer, les chants sont là. Et dans l'invisible, on sait qu'il se passe quelque chose. Amen. Il faut vraiment ça qu'on le croit, qu'on le prenne vraiment dans notre cœur. Je vais vous donner pour illustrer ce passage que la louange, c'est aussi un élément pour avoir la victoire. On va lire un passage dans 2 Chroniques au chapitre 20. 2 Chroniques au chapitre 20. Et on terminera ce message par un moment de louange. Alors, 2 Chroniques, chapitre 20. Donc, je vais commencer à lire les trois premiers versets. Après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, et aussi d'autres Ammonites, arrivèrent pour combattre Josaphat. on vint en enfermer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatson-Tamar, c'est-à-dire Ingedi. » Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Donc ici, nous avons l'histoire d'un combat. Des troupes armées viennent combattre Juda. Et Josaphat est roi de Juda à ce moment-là. Et donc, il y a une multitude d'ennemis qui sont contre lui. Et le chapitre, ce chapitre-là commence par quoi ? Par l'angoisse. Josaphat est dans l'angoisse et dans la peur. Les ennemis sont autour de lui. Ils veulent lui faire la peau. Et l'ennemi est là. À notre époque, c'est vrai que nous pouvons aussi, les uns et les autres, on ne va pas avoir un ennemi se présenter à nous, hein, tel qu'un viking ou quoi que ce soit. Non. Mais les ennemis, c'est d'autres choses. Hein. L'ennemi, ça peut être un problème dans tes finances. L'ennemi, ça peut être un diagnostic d'un médecin en disant vous avez telle ou telle chose. Ça peut être la peur du chômage. L'ennemi, ça peut être une inquiétude profonde pour son enfant. Quelque chose qui est là et qui nous ronge. Ça peut, pour d'autres, ça peut être qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Quel est le travail ? Et ça, des fois, on peut être paralysé, effrayé. Donc, ce passage commence par une prière, mais une prière de panique. Et du verset 7 au verset 12, c'est une prière de panique. Une prière où, Seigneur, viens à notre aide, tu vois l'ennemi qui est autour de nous. Et au milieu de cette panique, au milieu de cette peur, il va y avoir une parole de Dieu. Dieu va parler à travers une personne, il va y avoir une parole de Dieu. Alors on va lire au verset 13. Donc tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec même leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Donc ça fait penser à une réunion comme nous ce matin. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Yel, fils de Matania, Lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Yaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi d'Azaph, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel. Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. » Amen. Amen. Hein ? Peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre ce matin. Il y a peut-être un combat dans ta vie, il y a quelque chose, tu te sens peut-être incapable de lutter contre ce qui se présente à toi. Peut-être que tu as besoin de comprendre que ce matin, ce n'est pas ton combat. Hein ? Dieu combattra à ta place. Dieu désire combattre à notre place. Il ne désire pas forcément toujours qu'on aille en première ligne, mais il y a des moments, il nous demande de laisser tomber et que c'est lui qui va aller à notre place au combat. Amen. Ensuite, donc là, il y a une parole de l'Éternel. L'Éternel dit, vous n'avez pas à combattre. Donc j'aimerais qu'on imagine un peu la scène. Donc il y a des guerriers qui sont là. Donc les guerriers israélites, ils étaient environ 40 000, et puis les guerriers donc, des autres tribus. Et Dieu dit, vous n'avez pas à combattre. Bon, très bien. Alors c'est quoi le plan ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et c'est ça qui est étonnant. Donc nous avons des soldats israélites, ce sont des vrais guerriers, c'est des hommes qui savent se battre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils savaient où mettre l'épée pour pouvoir avoir une mort assez rapide. Ils savaient manier la lance. Ce n'était pas des rigolos, quelque part. Hein. C'était des gens qui savaient se battre. Et j'imagine ces guerriers qui sont là, d'accord, l'Éternel va combattre pour nous, alors qu'est-ce que tu fais ? Tu envoies des boules de feu, tu t'interviens d'une façon particulière, et nous, on se pose tout, on fait comment ? Et ce qui est étonnant, c'est le plan de l'Éternel. Alors, on va le lire au verset 21. Alors, voici le plan. Puis il tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l'Éternel, afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés. Lorsqu'ils sortirent devant l'armée, ils disaient « Célébrez l'Éternel, car sa bienveillance dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux du mont de Séhi qui étaient venus contre Juda. Et ils furent abattus. Alors voilà le plan de l'Éternel. Donc il y a une armée ennemie assoiffée de sang, des vrais guerriers, des gens qui savent se battre. Et les soldats étaient là en disant bah, « c'est quoi le plan? Qu'est-ce qui va se passer ?» Et Josaphat a dit ben, « le roi des rois m'a donné un plan. Alors c'est quoi ton plan? Appelez-moi les lévites, hein, appelez-moi les conducteurs de chants, les musiciens, les chantres, les joueurs de harpe, les artistes, les poètes. Appelez-moi ces personnes-là et puis commencez à les mettre devant. Hein. » Donc on fait la place et puis on met quelque part les artistes, les lévites devant. Et c'est vrai que j'imagine que les soldats ont dû se gratter un petit peu la tête en disant mais qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ces gens, ces joueurs de harpe. Ils ont dû commencer à accorder leurs instruments. Ils étaient devant une armée guerrière. Et il y avait une démarcation très claire. Hein. Les guerriers d'un côté qui se posaient des questions et de l'autre côté, eh bien, les artistes. Et on pourrait même imaginer l'armée en face en train de proclamer, de crier en disant « on va vous tuer, on va vous couper la tête ». Et imaginez ces artistes qui sont là en disant « loué, 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 loué ». D'un côté, il y a des guerriers, de l'autre côté, il y a la fanfare. Il y a quelque chose qui est vraiment une démarcation qui est très claire. Et quand on voit les plans de l'Éternel, souvent, l'Éternel demande d'envoyer Juda en premier. Vous pouvez le relire dans l'Ancien Testament. Souvent, l'Éternel dit « envoie Juda ». Et Juda, c'est quoi? Juda veut dire « louange ». Envoie les adorateurs, envoie la louange, envoie ceux qui aiment louer Dieu. Et moi, je vois un message à travers ça, c'est avant de combattre, avant de lier telle ou telle chose, avant de prendre autorité sur l'ennemi, Dieu nous demande d'envoyer Juda en premier. Envoie la louange en premier, envoie Juda. Et c'est vrai que la scène est quand même particulière. Entre ces soldats qui crient, qui veulent du sang, qui veulent s'entretuer, et puis en fin de compte l'Éternel qui demande de faire uniquement de la louange. Ce combat n'est pas le tien. Donc avant de combattre, envoie la louange. Avant de combattre telle ou telle situation, envoie Juda en premier. Je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas si je vais m'en sortir, eh bien, envoie Juda en premier. Tu n'as pas à combattre par rapport à ce combat. Et puis, vous pouvez observer une chose, c'est que la puissance de Dieu ne vient qu'à partir d'un moment, c'est quand ils ont commencé à louer le Seigneur. Amen. La puissance de Dieu est venue uniquement quand ils ont commencé à ouvrir la bouche. C'est pour ça que c'est important aussi de prier à voix haute. On doit proclamer. Il nous laisse libre, hein, Dieu, mais on a besoin de le proclamer. Et c'est au moment où ils commencent à louer que eh bien, les ennemis se sont entretués. Et Israël n'ont pas bougé. Ils ont vu ce spectacle devant leurs yeux et ils n'ont pas bougé. Et ce matin, je vais vous encourager à ça. On va pouvoir, je vais appeler les musiciens, on va pouvoir prendre deux chants si le temps nous le permet. Mais j'aimerais que ce matin, on puisse donner ce que Dieu veut que tu donnes ce matin. Peut-être qu'il y a des situations qui sont difficiles. Il y a comme des difficultés dans nos vies. Eh bien, Dieu nous dit, envoie Juda en premier. Amen. Envoie. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Envoie Juda en premier. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse envoyer Juda en premier. On va prendre ces chants et vraiment de tout un cœur. On va louer l'Éternel parce que nous savons que c'est notre Dieu qui combat pour nous. Amen. L'Éternel combat pour toi, combat pour nous. On va prendre